France Info.
Bonsoir, un candidat à la tête du Parti Socialiste est l'invité de Tout est politique sur France Info jusqu'à 22h à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT. Bonsoir Stéphane Le Foll.
Bonsoir.
Député socialiste de la Sarthe, ancien ministre de l'Agriculture, ancien porte-parole du gouvernement de François Hollande et effectivement vous êtes candidat pour piloter peut-être un jour le Parti Socialiste. Nous évoquerons avec vous le dossier Lactalis, l'avenir du PS bien sûr, mais aussi la future loi immigration qui fait débat. Vous serez rejoint dans la deuxième partie de Tout est politique par nos deux autres invités, deux porte-parole, Laetitia Avia, qui est déléguée nationale de La République En Marche et députée de Paris, et Sébastien Chenu, député du Nord et porte-parole donc du Front National. Et avec vous, bonsoir et bienvenue, Gilles Bernstein de France
Bonsoir
Info.
Bonsoir messieurs.
Vos réactions
Bonsoir,
sur Twitter, hashtag TFP, voilà, les amabilités sont faites. Nous ne nous excuserons jamais assez. Ce sont les mots trouvés par l'entreprise Lactalis qui est sortie de son mutisme dans ce qui ressemble à un scandale sanitaire du lait infantile contaminé. Michel Nallet, le porte-parole de l'entreprise Lactalis, a assuré lors d'une conférence de presse avoir travaillé en parfaite collaboration avec les autorités.
Jamais, jamais, nous n'avons déclaré quoi que ce soit à l'encontre des autorités. Jamais nous le ferons. Nous avons travaillé depuis le début en parfaite collaboration avec l'ensemble des autorités et nous continuons à le faire depuis lors.
Stéphane Le Foll, vous avez dirigé le ministère de l'Agriculture pendant 5 ans. Hein. Il dit jamais ce monsieur, vous le croyez ?
En tout cas, il y a manifestement une grosse responsabilité de Lactalis. Puisqu'il y a eu, d'après ce que j'ai cru comprendre, une première enquête interne avec des détections de salmonelle dès août. Il y a eu des décisions qui ont été prises début décembre de retrait d'un certain nombre de produits, très peu. Il y a eu un arrêté qui a été pris par le ministre de l'Économie et des Finances le 12 décembre et il faut attendre aujourd'hui le 10-11 janvier pour qu'on puisse avoir une prise de position très claire, et je regarde en même temps les images de Benoît Hamon, une position très claire sur un engagement ferme du gouvernement à remettre de l'ordre et à sanctionner les fautes.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Que le gouvernement a tardé?
A tardé. Je regardais donc les images de Benoît Hamon.
Oui, nous sommes
moi,
dans un studio. Où
il
n'est
pas au studio, mais il y a des images. Quand il y a eu l'affaire dite des lasagnes de cheval, le moment où a été évoquée cette affaire, immédiatement, il y a eu une intervention du ministre, que j'étais à l'époque, pour condamner et dire qu'il y aurait des sanctions. Et deuxièmement, avec Guillaume Garot et Benoît Hamon, qui était à l'époque tutelle de la DGCCRF, on a fait plusieurs conférences de presse dès le début pour mettre une pression immédiate et ne pas attendre. C'est pas la responsabilité, Bruno Le Maire l'a dit, il y a une responsabilité de l'entreprise Lactalis. Mais quand même, il y a un retard.
Mais c'est de l'inexpérience et de la négligence de la part du gouvernement, c'est quoi ?
Ça peut pas être de l'inexpérience, on est avec le premier groupe mondial.
Donc c'est de la négligence de la part du gouvernement.
Je ne sais pas, il doit y avoir une enquête sur ce sujet, très claire, et des sanctions doivent être prononcées. Que ça soit vis-à-vis de Lactalis, que ça soit aussi vis-à-vis de la grande distribution, qui, me semble-t-il, tout ça a été géré avec pas assez de rigueur.
Qu'est-ce qu'auraient dû faire les services de l'État à ce moment-là? C'était il y a un mois.
Ah, mais moi j'ai été frappé.
Qu'est-ce que l'on fait concrètement?
Il y a un mois, il n'y a pas eu une prise de parole politique dès le début. Il fallait monter tout de suite, imposer, une information immédiatement, mettre la pression sur les acteurs et engager. Ça a été fait, mais pas suffisamment de manière claire. Et on peut pas attendre un mois, parce que, en gros, 12 décembre, je crois, l'arrêté de retrait, et un mois après seulement, une prise de parole du ministre ou des ministres. Là, il y a quand même un problème pour ce qui est de la gestion politique du sujet. Et après, il y a un vrai problème de responsabilité d'entreprise Lactalis.
Gilles Bernstein.
Hier, Frédéric Dabi, qui était à votre place, disait à quel point, qui dirige un institut de sondage, disait à quel point ces affaires de santé, de scandale sanitaire étaient sensibles dans l'opinion publique. Est-ce que vous avez été 5 ans ministre de l'Agriculture? Alors, vous le dites pas, mais vous le dites souvent, vous êtes le plus long ministre de l'Agriculture de la 5e République. Est-ce que vous vous étiez rendu compte à quel point ces matières-là étaient inflammables dans l'opinion publique?
Mais à quel point? Mais je peux pas faire autrement que de dire qu'effectivement, c'est extrêmement sensible. C'est pourquoi, à chaque fois, il fallait être présent tout de suite, agir tout de suite, être transparent aussi. Et j'ai connu beaucoup de problèmes. Et ça, c'est une ligne de conduite que j'ai pris très tôt avec cette affaire des lasagnes de cheval et qui a été une ligne directrice pendant les 5 ans où j'ai assumé les responsabilités.
La grande distribution reçue à Bercy, elle est exempte de responsabilité selon vous ?
Elle a une part de responsabilité. Pas la même, mais il y a une part de responsabilité. On ne peut pas laisser des produits en vente alors qu'on sait qu'il y a un risque pour la santé. Enfin, quand je parlais des lasagnes, c'était sans risque pour la santé. C'était une fraude, une tromperie. Là, il y a un risque pour la santé, pour les enfants en plus, les petits-enfants. Donc on ne peut pas ne pas prendre ce sujet tout de suite, avec force, détermination.
On n'a pas du tout entendu la ministre de la Santé non plus. Vous trouvez ça baroque ?
Mais jusqu'ici, pas du tout la ministre de la Santé. Très peu le ministre de l'Agriculture. Et puis le ministre de l'Économie qui... aujourd'hui, j'ai dit, un mois après d'ailleurs, qu'il ait dit, et c'est très bien, qu'il ait signé cet arrêté pour le retrait, eh bien un mois après, il parle. Mais moi je pense, là je le dis, mais avec objectivité, fallait parler tout de suite et mettre immédiatement la pression sur tous les acteurs.
Dernière question sur ce sujet, Stéphane Le Foll. Des nouveaux contrôles sont prévus, a expliqué Bruno Le Maire. Il faut aller chercher les lots éventuellement qui restent ou tous les lots, au fond, il faut tout retirer.
Il faut retirer tous les lots susceptibles d'être liés à une production qui peut avoir un risque pour la santé. Il faut aller vite. Je dis que ça fait un mois.
Allez, il est 21h.
Donc c'est beaucoup trop de temps.
Il est 21h10 sur France Info. L'info avec vous, Diane Ferchit.
Les associations d'aide aux migrants déçues à l'issue de leur entrevue avec le Premier ministre aujourd'hui, elles estiment que le projet de loi Asile et Immigration est un texte déséquilibré que le gouvernement n'a aucune volonté d'infléchir. Elles dénoncent un durcissement très net. Pour Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, on essaye de réparer aujourd'hui ce qui ne marche pas. Le système a besoin d'être changé. L'affaire Lactalis et des familles vont porter plainte contre les magasins de grande distribution qui ont vendu du lait infantile, pourtant rappelé. La direction de Lactalis, elle, s'est expliquée ce soir. Le porte-parole de l'entreprise est revenu sur la chronologie des différents rappels des produits. « Nous ne nous excuserons jamais assez », a-t-il affirmé, ajoutant avoir travaillé en parfaite collaboration avec les autorités. La direction de Lactalis sera reçue demain par Bercy. Le gouvernement demande des sanctions. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête après l'agression aujourd'hui de plusieurs surveillants de la prison de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Un détenu incarcéré pour son implication dans l'attentat de Djerba en 2002 a attaqué 4 surveillants avec un objet tranchant. 3 d'entre eux sont légèrement blessés. L'Équateur naturalise Julian Assange, le créateur de Wikileaks. Depuis 2012, il est réfugié à l'ambassade équatorienne à Londres. L'Équateur qui tente de lui obtenir un statut diplomatique. Le Royaume-Uni a cependant refusé aujourd'hui d'accréditer Julian Assange comme agent diplomatique, membre de la délégation équatorienne. Serge Klarsfeld se dit soulagé. Réaction du président de l'association Fils et Filles de déportés juifs de France. Après l'annonce de Gallimard, la maison d'édition suspend son projet de réédition des pamphlets antisémite de l'écrivain Céline. La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme salue pour sa part une décision responsable.
France Info. 21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili.
Stéphane Le Foll, vous voilà donc candidat à la direction du Parti Socialiste. Nous vous avions reçu d'ailleurs, si mon souvenir est bon, à l'automne dernier là-dessus. Le suspense était absolument insoutenable. On vous sentait assez mûr, assez prêt. Ça y est, c'est fait. Vous avez pris votre décision.
Je me sens assez mûr. Je pense que dans le débat qui s'engage pour le Parti Socialiste, il y a deux objectifs. Le premier, bien sûr, c'est d'adapter, de rénover, de changer les pratiques à l'intérieur du Parti Socialiste. Mais le deuxième objectif, c'est de redonner une voix, une présence dans le débat public et politique et démocratique français au Parti Socialiste.
Alors.
Et c'est pourquoi, après avoir réfléchi, j'ai décidé d'être candidat. Ce n'est pas contre les autres candidats, c'est pour tirer toutes les conséquences de ce qui se passe après la défaite que nous avons connue en 2017. Je pense que mon expérience, qui est souvent un élément qui peut décider d'autres à faire d'autres choix, est au contraire aujourd'hui un élément qui peut apporter au Parti Socialiste dans les 2 ans qui viennent. Nous avons 2 ans pour nous redresser. Eh bien, la partie qui va remettre le Parti Socialiste dans le débat public.
Alors voilà pour vos motivations. Le problème, c'est que le Parti Socialiste, il ne va pas très bien, vous le savez, Stéphane Le Foll. Les finalistes, Hamon et Valls, c'est bien, ils sont partis. Solferino est vendu. Écoutez ce que disait justement, vous le citiez tout à l'heure, Benoît Hamon, invité ce matin sur RTL, qui est membre fondateur de Génération S. Écoutez ce qu'il dit de son ancienne famille, le PS.
Je ne veux pas commenter ce qui se passe
toujours
au Parti Socialiste. Non, mais c'est aux socialistes de savoir si ils sont crédibles aujourd'hui dans le débat politique, s'ils sont opposés à Emmanuel Macron ou pas. Moi, il ne me revient pas d'apprécier ou de juger qui est le bon ou le mauvais candidat.
Pour l'instant, vous ne savez pas où ils sont, donc. Vous ne voyez pas exactement quel est leur discours.
Écoutez, comme beaucoup, j'attends de comprendre si ce parti est favorable ou défavorable à Emmanuel Macron. J'ai l'impression que selon les uns ou selon le moment où ils parlent, ça change, c'est tout. Mais je ne ferai pas davantage de commentaires.
Ce parti, il n'en fait plus, évidemment, il n'en est plus membre, hein, il est parti, oui, lui-même, il a claqué la porte. Oui, il était candidat, non ?
Il était candidat et il a dit qu'il n'était pas le candidat du Parti Socialiste. Par contre, pour ce qui est du financement de la campagne, c'est bien le Parti Socialiste qui a financé la campagne. Il n'est plus au Parti Socialiste. Je comprends qu'il ait ce regard par rapport au Parti Socialiste. Le groupe socialiste à l'Assemblée nationale, qui est présidé d'ailleurs par Olivier Faure,
candidat lui aussi.
Et pour qui j'avais voté d'ailleurs pour la présidence du groupe, ce groupe a pris des positions extrêmement claires. On est dans l'opposition quand on ne vote pas le budget. Ce qui avait failli d'ailleurs arriver avec une motion de censure à Benoît Hamon à l'époque, quand il était député avec le gouvernement de Manuel Valls. Nous sommes dans l'opposition. Mais l'opposition, c'est aussi vis-à-vis des Français d'être capable à la fois de dénoncer ce qui ne va pas, de mettre les points sur les i quand il faut le faire, je l'ai fait tout de suite sur un sujet, et en même temps d'être capable aussi d'avoir du discernement. Parce que ce qui s'est passé avec l'élection de 2017, c'est qu'on a besoin d'avoir une opposition, mais cette opposition ne peut plus être systématique.
Parce que ce que dit Benoît Hamon, c'est que le sujet, au fond, c'est savoir si vous êtes, on verra si vous êtes compatible avec Macron ou pas. C'est le sujet.
Mais il y a même que Benoît
Sachant,
Hamon se...
pardonnez-moi, Gilles que Bernstein. Vous avez été élu député sans candidat à La République En Marche contre vous, et que ça vous est reproché au Parti Socialiste.
J'ai bien entendu, c'est un argument très politicien dans ce débat. Parce que je rappellerai à ceux qui me le reprochent que cette circonscription, il a fallu que je m'y reprenne à trois fois pour pouvoir la gagner, c'était celle de François Fillon. Moi, je n'ai pas été parachuté dans une circonscription de gauche facile à gagner. S'il faut que je fasse la liste, il y en a beaucoup qui peuvent me faire aujourd'hui des reproches, mais moi, personne n'est venu me féliciter quand cette circonscription, la quatrième de la Sarthe, depuis 1958, toujours à droite, a basculé à gauche. Et je suis resté avec l'étiquette socialiste pendant la campagne législative, et j'ai fait plus de 30% au premier tour et 55% au deuxième tour. J'étais un proche de Hollande, j'étais le porte-parole du gouvernement, j'étais ministre de l'Agriculture, et on se rappelle des crises agricoles, j'ai quand même été élu. Chacun devrait aussi regarder un peu plus objectivement la politique. Donc moi, je n'ai aucune leçon sur ce sujet à recevoir. Je suis parfaitement libre et décidé à m'opposer à la politique qui est conduite, en particulier sur des grandes questions comme la fiscalité, sur les grandes questions que j'évoquais tout à l'heure. J'ai aucun sujet là-dessus.
Stéphane Le Foll, quatre candidats, Olivier Faure, Luc Carounas, Emmanuel Morel et vous-même, pas de femmes, pas de diversité. Est-ce que c'est pas un peu déprimant tout ça?
Je peux pas dire ce que j'en pense, puisque chacun est candidat en fonction de ses motivations. Vous allez me dire, il y en a peut-être trop. Faudrait-il qu'on en rajoute? Je ne sais pas. Moi, je vous dis simplement que je suis candidat. Parce que dans le contexte, il faut à la fois rassembler au sein du Parti Socialiste. Il faut adapter et rénover le Parti Socialiste.
Justement.
Et en même temps, il faut lui donner la force d'avoir une présence politique dans le débat politique face à Jean-Luc Mélenchon, face à Benoît Hamon, face à Emmanuel Macron et La République En Marche, face à Laurent Wauquiez, face à Marine Le Pen. C'est ça le sujet qui est posé aujourd'hui aux militants. Et c'est à eux de trancher, en dehors de toutes autres considérations. C'est les militants qui vont trancher.
Gilles Bernstein.
Vous avez parlé deux fois depuis que vous êtes là de rénover la vie politique. Alors Jean-François
l'a dit.
Non, la vie politique. De rénover le Parti Socialiste, la vie socialiste, le fonctionnement du Parti Socialiste. Alors j'entends ça depuis des années. Il faut faire de la politique autrement. Franchement, non. Quand vous demandez aux gens, non. Le Parti Socialiste a l'air le dernier à faire de la politique autrement, il fait de la politique pareil. Quelles sont vos idées pour faire du Parti Socialiste enfin un parti différent ?
Le parti, j'ai jamais été de ceux qui ont fait de la politique en commençant par dire qu'on va rénover la politique.
Là, vous me l'avez dit. Il faut rénover et changer nos pratiques.
Borstein, il faut le Parti Socialiste dans son fonctionnement. Alors, quand je vois qu'aujourd'hui, au Parti Socialiste, on continue à aller voter sans pouvoir avoir de procuration, alors que les autres partis, et d'autres en particulier même à droite, ont introduit des votes électroniques, que notre place territoriale pour ouvrir les débats...
Ça va galvaniser les Français, vous pensez ?
Mais Gilles, ne faites pas de commentaires aussi abrupts. Le fait de galvaniser les Français, c'est de faire de la politique et s'adresser aux Français. Là, je vous parle de la rénovation interne du parti.
Ça, c'est de la mécanique du parti, c'est pas un rêve, quoi.
Mais c'est pas un rêve. Vous me posez une question sur la mécanique, je vous réponds sur la mécanique. Le Parti Socialiste, pour qu'il puisse avoir... un fonctionnement nouveau, vous me parlez du fonctionnement, je vous parle du fonctionnement, mais il faut changer ce qui fait aujourd'hui ce fonctionnement. Ça fait, vous l'avez dit, 40 ans qu'on fonctionne de la même manière. Eh bien, il faut changer. Après, la politique se fait en mobilisant et en renouvelant ceux qui vont devoir s'exprimer. Il faut faire monter une génération et on a 2 ans pour le faire. C'est ça l'enjeu. Dans le débat public... Et dans le débat politique d'aujourd'hui, parce que c'est ça que vous évoquez sur le Parti Socialiste, peut-il faire rêver ? Mais c'est en faisant de la politique, en faisant un projet, en ayant des propositions, tout en s'opposant. C'est ça qui fait la politique, c'est ça qui fait que les gens adhèrent. Pour avoir cette possibilité-là, il faut être présent dans le débat démocratique. C'est un autre sujet. C'est ça la question qui est posée.
Juste de façon très courte, combien de divisions le PS ? On ne sait plus trop où sont les militants. Un coup à La République En Marche, un coup chez Benoît Hamon, un coup chez Jean-Luc Mélenchon. Vous avez une idée, vous, précise de la surface de
ça ? Ceux qui sont partis à La République En Marche sont partis à La République En Marche. Ceux qui sont partis, c'est... Mais combien ? Je ne sais pas, moi.
Les adhérents en carte, combien ?
Jean-François Akili, je ne suis plus à la tête du Parti Socialiste depuis pratiquement 8 ans. Donc je ne vais pas vous dire exactement où il en est aujourd'hui en termes de nombre de militants. Je sais qu'il y en a qui sont partis. Je sais qu'il y en a qui veulent revenir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, dans la rue, viennent nous dire ou me dire « il faut se redresser, on a besoin de vous ». Donc, il faut se redresser.
Allez, l'info à 21h20. On va parler de la suite avec vous du Parti Socialiste dans un instant. L'info à 21h20 sur France Info avec vous, Diane Ferchit.
Lactalis renouvelle ses excuses aux parents dont les enfants ont consommé des produits suspectés de contamination au salmonelle. Le porte-parole du géant laitier s'est exprimé ce soir, affirmant avoir travaillé en parfaite collaboration avec les autorités. La direction de Lactalis sera reçue demain à Bercy. Ce soir, ce sont les responsables de la grande distribution qui se sont expliqués face à Bruno Le Maire. Plusieurs familles ont annoncé qu'elles allaient porter plainte contre ces magasins. Ils ont reconnu avoir vendu du lait infantile Lactalis qui aurait dû être retiré des rayons. Première journée de discussion sur la réforme de l'assurance chômage et de la formation professionnelle. Syndicats et patronats vont se réunir toutes les semaines jusqu'au 16 février. Les partenaires sociaux doivent notamment se mettre d'accord sur un dispositif pour inciter les entreprises à limiter le recours aux contrats courts. Le gouvernement attend leurs propositions pour présenter un projet de loi au printemps. Près de 8 Français sur 10 se disent favorables à une loi contre les fake news. C'est ce que révèle un sondage Odoxa pour France Info et Le Figaro. Les sympathisants du Front National sont cependant les plus réservés. 36% d'entre eux estiment que c'est une mauvaise initiative, car elle risque de porter atteinte à la liberté d'expression. Samsung dit appliquer une tolérance zéro au travail des enfants dans ses usines chinoises. Le géant de l'électronique réagit après les accusations de 2 ONG. Sherpa et Peuple Solidaire ont déposé plainte à Paris pour pratiques commerciales trompeuses. Le gouvernement haïtien lance un appel à financement à hauteur de 210 millions d'euros. Somme nécessaire selon lui pour répondre aux urgences humanitaires de l'année à venir. Dans le sud du pays, 1 million de personnes ont besoin d'assistance un an après le passage de l'ouragan. Mathieu.
France Info. 21h-22h, tout est politique. Jean-François Akili.
Et puis il y a François Hollande, hein, sa présidence a déçu plus que cela même. Vous connaissez Carlos Da Silva, Stéphane Le Foll, président du groupe socialiste et républicain au Conseil régional d'Île-de-France. Eh bien, il était notre invité mardi soir sur ce plateau de Tout est politique. Écoutez son désarroi, même cette sorte d'appel qu'il a lancé. Écoutez bien.
Sur le plan comportemental, nous n'avons pas été à la hauteur dans le dernier quinquennat. Et honnêtement, d'abord, on devrait commencer par, au fond, présenter des excuses aux Français pour le comportement qui a été le nôtre collectivement.
François Hollande devrait s'excuser pour son quinquennat.
Oui, mais François Hollande, ses premiers ministres, les dirigeants du Parti socialiste, on a donné le sentiment d'un énorme bazar. Et pour autant, la politique qui a été menée, moi, je continue de la défendre.
Vous présenteriez des excuses ?
Non, je ne présenterai pas des excuses, mais j'entends le fait qu'on ait aussi à tirer un certain nombre de leçons de ce qui s'est passé. Dans ce qui est dit par Carlos da Silva sur cette espèce de cacophonie, parfaitement d'accord. Ce manque de maîtrise en termes de communication politique sur l'action gouvernementale, parfaitement d'accord. Le décalage qu'il y a eu au moment où on a pris un certain nombre de décisions, et en particulier la loi travail qui est arrivée en fin de quinquennat, sur un sujet qui aurait dû être préparé avec minutie et avec le temps nécessaire au dialogue social. Ça, c'est des erreurs. Ça, c'est des erreurs. Mais dans la cacophonie aussi, cette cacophonie, elle est venue aussi de loin, sur des choses qui n'avaient pas été suffisamment, comment dirais-je, acceptées au sein de la majorité et du Parti Socialiste. Je pense en particulier à la question économique. Quand on arrive aux responsabilités, on est dans une crise économique. Mais on a un rapport gallois qui nous dit que la compétitivité des entreprises est au plus bas et qu'on est obligé de prendre des décisions qui... dans ce contexte, était absolument nécessaire. Qu'on donnait des résultats plus tard, mais au moment où on les prend, elles n'ont pas toujours été comprises. Parce qu'il n'y a pas eu assez de travail.
Justement, on voit que là, j'ai vu qu'il y a 269 000 créations nettes d'emplois cette année. Alors, effectivement, ce n'est pas uniquement grâce à Emmanuel Macron, mais certainement, allez-vous me dire, un peu grâce à vous. Est-ce que vous assumez, vous, Stéphane Le Foll, candidat à la tête du Parti Socialiste, est-ce que vous assumez cette politique social-démocrate, social-libérale, appelez-la comme vous voulez, mais cette politique de l'offre ?
Cette politique de production et d'entreprise. Ah, mais ça, il faut l'assumer. C'est sûrement un élément sur lequel on a besoin de continuer à parler et à expliquer. Je l'ai rappelé, il y a eu le rapport gallois sur la compétitivité des entreprises, une faiblesse dans leur capacité à investir. On a retrouvé, elles ont retrouvé les entreprises des marges qui leur permettent d'investir et qui ont abouti à la création d'emplois que vous évoquez.
Vous allez porter clairement une candidature favorable aux entreprises.
Mais je vais porter, mais pas...
Qui n'est pas vraiment à la gauche du PS.
Mais Gilles Borstein, vous pensez que je vais parler que de ça ? Vous pensez que je ne vais pas parler de la fiscalité ? De ce que j'ai écrit avec la Fondation Jean Jaurès sur la question des inégalités patrimoniales ? Vous pensez que je ne vais pas parler de fiscalité avec la suppression de l'ISF ? Vous pensez que je ne vais pas parler des questions d'immigration ? Vous m'avez saisi sur un point, et là-dessus, je voulais répondre, sur une question, et c'est vrai, dans ce quinquennat, alors qu'on arrive et qu'on a une énorme difficulté avec le tissu productif, il y a eu un choix qui a été de donner aux entreprises cette capacité à investir et ensuite à créer de l'emploi. C'est arrivé plus tard que ce qu'on aurait souhaité. Ouais. Ça bénéficie aujourd'hui à Emmanuel Macron. La France s'est redressée et c'est tant mieux.
On parlera d'emploi et d'immigration dans la deuxième partie avec Laetitia Avia et Sébastien Chenu. Mais vous avez vu ce propos rapporté par Nathalie Chuc dans Le Parisien, attribué à François Hollande, qui aurait dit « État de la famille PS, c'est catastrophique, on a touché le fond », aurait dit l'ancien président de la République. Vous validez ce type de propos? Ce sont des propos rapportés, mais il est dans cet état d'esprit-là.
Eh bien, moi, j'ai une totale liberté, et donc je vais le dire de manière très claire. Je ne partage pas ce qui vient d'être dit. Et si je suis candidat pour diriger le Parti Socialiste, c'est comme je l'ai dit, c'est parce que je pense aujourd'hui qu'il y a besoin plus que jamais d'un parti de gauche de gouvernement et de porter les idées socialistes. Alors après, on peut dire qu'on est dans une situation, vous l'avez suffisamment rappelé ce soir, qui est extrêmement difficile, que la défaite que nous avons connue, elle a des conséquences extrêmement lourdes, mais moi je ne vais pas m'arrêter et m'apitoyer. Je suis là justement parce que je suis acteur pour redresser cette situation et redonner une voix et une capacité à être entendu par les Français. C'est ça ce que je vais faire. Et donc ce soir, c'est très clair ce qui est rapporté, parce qu'après, je ne sais pas si ça a été dit. Moi, c'est pas ma position et c'est tout le contraire, puisque je suis moi-même... une démarche de redresser, de relever.
Pas votre état d'esprit, mais il aura pu dire une chose pareille. En fait.
Mais je ne sais pas. C'est rapporté par quelqu'un, d'après ce que je crois savoir. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne suis pas d'accord.
Ok. Dans la deuxième partie de cette émission, donc Stéphane Le Foll, nous allons être rejoints par Laetitia Avia de La République En Marche et Sébastien Chenu du Front National. Nous évoquerons les dossiers de l'emploi, le contrôle des chômeurs. Nous parlerons de l'immigration. Emmanuel Macron a fait un déplacement en Italie aujourd'hui. Nous évoquerons quelques dossiers qui sont dans l'actualité aujourd'hui. C'est dans la deuxième partie de Tout est politique, après la météo et après l'info sur France Info.
France Info Météo, avec les agences meilleurtaux.com, crédit immobilier, assurance de prêt, 260 agences meilleurtaux.com à vos côtés, partout en France.
La météo avec vous, Elodie Calac pour Météo France.
Beaucoup de grisailles demain, sauf sur les Pyrénées et le Sud-Est. On aura du soleil dès le matin au prix du vent. 70 km à l'heure pour Mistral et Tramontane, 90 sur les Pyrénées. En Corse, quelques averses et de belles éclaircies l'après-midi. Près de l'océan, sur le Sud-Ouest, le Sud du Massif Central, jusqu'au Nord des Alpes, ça s'arrangera. Les éclaircies s'installeront pour l'après-midi. Elles seront très belles en montagne. Entre les côtes de la Manche, le Centre, le Limousin, l'Auvergne, le Sud de la Bourgogne-Franche-Comté et le Lyonnais, après les nuages bas et les brouillards matinaux, quelques éclaircies se dessineront après-midi. En revanche, entre le nord de la Seine, le bassin parisien, le nord-est, là les brouillards se dissiperont, mais les chances de voir le soleil resteront bien minces l'après-midi. Il fera souvent 0 à 5 degrés le matin et puis l'après-midi 6 degrés à Lille, Besançon, Aurillac, 7 à Paris, 8 à Nantes et Lyon, 10 à Bordeaux, 12 pour Marseille et 15 à Ajaccio.
L'intégrale des concertos pour piano de Beethoven. Les 24, 27, 31 janvier et 3 février à l'Auditorium de Radio France. Elisabeth Léonskaya, Alice Sarraot, Pierre-Laurent Aymard, Bertrand Chamaillou et Rudolf Buchbinder. 4 soirées d'excellence, un grand voyage beethovenien. Mikko Frank dirige l'intégrale des concertos pour piano de Beethoven avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Réservation maisondelaradio.fr.
Après son succès à Paris et en tournée dans les Zéniths de France, Quintessence, le spectacle équestre et aérien du maître écuyer Alexis Grus, avec la compagnie Les Farfadets, revient avec France Info. 2h30 de show, 40 chevaux, plus de 20 artistes, un orchestre live et des effets scéniques époustouflants. Quintessence, actuellement à Paris, Porte de Passy, en partenariat avec France Info.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
France Info, il est 21h30, toute l'info avec vous Frédéric Bagnada.
Le mea culpa ce soir de Lactalis, touché par un scandale de lait contaminé au salmonelle. Lactalis a renouvelé ses excuses aux parents dont les enfants sont tombés malades. Lactalis qui assure travailler en parfaite collaboration avec l'État, la direction du groupe laitier est convoquée demain par le ministre de l'économie Bruno Le Maire, veut savoir comment du lait infantile potentiellement contaminé s'est retrouvé dans les rayons des supermarchés malgré le rappel des autorités sanitaires. En attendant, c'est la grande distribution qui a été sommée de s'expliquer ce soir à Bercy. Bruno Le Maire a d'ailleurs rappelé qu'il avait lui-même signé la suspension de commercialisation de 11 000 lots. Emmanuel Macron lui parle d'éventuelles sanctions. Grégoire Le Callot.
Impossible de rater le site de Lactalis à Cran, une usine déployée sur une vingtaine d'hectares en périphérie de la ville, des bâtiments cubiques, des silos métallisés. C'est là qu'est produit le lait en poudre. Très peu d'activité dans cette usine. Des camions de lait vont et viennent pour fournir l'activité fromage qui continue normalement. Mais la production de lait infantile, elle, s'est arrêtée le 8 décembre. Il ne reste qu'environ 70 salariés à y travailler sur 250 pour des activités de maintenance et de nettoyage. Le silence autour de l'usine fait écho à celui des salariés, tout comme leur mutique patron, Emmanuel Beignet. Ils préfèrent ne pas parler pour la plupart. Didier est l'un d'entre eux, 28 ans de maison, il est aujourd'hui chef d'équipe. À la sortie de l'usine, dans sa voiture, il s'en explique.
C'est un choix de la direction, hein, voilà. Nous, on veut avoir toutes les preuves et tout ce qu'il faut pour pouvoir argumenter là-dessus. Voilà, nous, jamais on n'aurait pu se douter de quoi que ce soit, quoi. Et c'est arrivé. Il y a eu sûrement une erreur quelque part, mais où ? Et d'expliquer le pourquoi, le comment, on ne sait pas.
Il compte sur les travaux prévus dans l'usine pour assainir la situation. Il s'avoue toutefois inquiet pour son avenir et celui de ses collègues. Ceux qui ne sont pas à l'usine sont soit au chômage technique, soit sont partis travailler dans d'autres sites du groupe, notamment en Ille-et-Vilaine.
L'agression de 3 surveillants par un islamiste à la prison de Vendin-le-Vieille dans le Pas-de-Calais. L'islamiste allemand Christian Gansarski est considéré comme l'un des instigateurs de l'attentat de Djerba en 2002 qui avait fait 21 morts. Les surveillants ont été agressés avec une paire de ciseaux. Ils ont été légèrement blessés au cou et au visage. La section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie de l'enquête. Samsung dément faire travailler des enfants dans ses usines en Chine. le géant de l'électronique sud-coréen, affirme appliquer une tolérance zéro vis-à-vis du travail des enfants. Samsung réagit après une plainte déposée par plusieurs ONG à Paris pour pratiques commerciales trompeuses. Très remontées contre la politique migratoire du gouvernement, les associations de défense des migrants reçues aujourd'hui à Matignon, elles ont fait part de leur déception sur un projet de loi qui paraît, selon elles, totalement déséquilibré.
Tout est politique, Jean-François Aquili.
La deuxième partie de Tout est politique sur France Info avec deux nouveaux invités qui nous ont rejoints. Bonsoir Laetitia Avia.
Bonsoir.
Vous êtes déléguée nationale à la communication et porte-parole de La République En Marche et députée de Paris. Bienvenue. Bonsoir à vous Sébastien Chenu.
Bonsoir, bonsoir et bonne année.
Merci. Député du Nord et porte-parole du Front National avec Gilles Bornstein et évidemment notre invité Stéphane Le Foll, candidat à la tête du Parti Socialiste et député socialiste de la Sarthe. Alors, faut-il être choqué par le contrôle des chômeurs que souhaite mettre en place Emmanuel Macron? C'est notre premier débat de cette deuxième partie. Les négociations entre les partenaires sociaux sur la réforme de l'assurance chômage ont débuté ce jeudi. Christophe Castaner, invité ce matin de Jean-Michel Apathy et Bruce Toussaint sur France Info, valide le principe du contrôle.
14% des gens ne sont pas en recherche active et on parle bien de ceux qui sont en potentiel de recherche active. Quelqu'un qui a 60 ans aujourd'hui est accompagné par Pôle emploi mais n'est pas considéré comme devant avoir cette recherche active. Et donc, ces personnes-là, il faut les identifier, non pas pour les condamner, mais pour les accompagner, pour leur donner les moyens d'une recherche active.
L'idée c'est... On supprime l'indemnisation. Hein,
alors c'est une des propositions sur lesquelles
vous
Emmanuel Macron...
Vous êtes d'accord avec cette proposition?
Pour une raison simple, c'est que c'était au cœur du projet électoral d'Emmanuel Macron et qu'on ne s'en est jamais caché.
Stéphane Le Foll, vous êtes pour ou contre ce contrôle accru des chômeurs?
Moi, je suis contre. Je vois bien toute la logique qu'il y a aujourd'hui qui va se mettre en route. C'est qu'on va passer d'un système de cotisation qui faisait que derrière, on avait une assurance chômage, à un système où on va... financer le chômage par la CSG. Donc on change de système. Et pour faire ça, on est en train de dire, eh bien, parce qu'on va ouvrir des droits du chômage pour les démissionnaires, qui sont très très peu nombreux, et puis les indépendants, eh bien, on se dit, tiens, pour pouvoir financer tout ça, on va commencer par considérer que les chômeurs d'aujourd'hui, ils le sont parce qu'ils ne cherchent pas suffisamment un emploi, ou ils leur refuseraient des emplois quand on leur en propose.
Qu'est-ce qui vous dérange là? C'est une forme de stigmatisation
Oui, c'est une forme de stigmatisation des chômeurs pour s'engager dans une réforme qui est extrêmement lourde, qui passe de l'assurance chômage à une forme d'indemnité chômage financée par l'impôt par la CSG. C'est un changement complet. Ouais. Jusqu'ici, c'est les cotisations des salariés qui payent leur chômage. Il ne faut pas l'oublier. On va passer complètement vers un autre système. Et donc, on s'attaque aujourd'hui aux chômeurs. Je ne suis pas d'accord.
Sébastien Chenu du Front National, pour ou contre ce type de contrôle?
Bon, écoutez, moi je suis toujours pour qu'on sanctionne les gens qui utilisent mal, ou en tout cas qui cherchent à contourner un système. Mais là, c'est une drôle d'histoire que le gouvernement se fait. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a 300 000 emplois non pourvus. Il y a 6 millions de chômeurs. Quand bien même on obligerait l'ensemble des chômeurs à accepter les offres d'emploi non pourvues, on ne résoudrait pas le problème. Je veux dire, tout ça, c'est une histoire. Alors, c'est un amalgame, voyez-vous. En général, c'est un mot qui est bien aimé par nos adversaires politiques. Pas d'amalgame. Ben là, on fait un amalgame entre les chômeurs, qui subissent quand même déjà une situation qui est quand même pas simple, qui est celle de se retrouver sans emploi et d'en chercher, et puis celles et ceux qui truandent la loi. Donc, je trouve que le gouvernement s'y prend mal. Il met à l'index des hommes et des femmes qui, pour la plupart d'entre eux, les gens qui cherchent du travail, sont dans la difficulté. Il y a des gens qui fraudent, il y en a toujours. Il faut les combattre certainement, mais
il y a déjà des contrôles.
On n'érige pas ça en politique
ça
simplement. Derrière la réforme de l'assurance chômage.
Je remarque que vous ne dites pas des choses très différentes, Stéphane Le Foll et vous.
Bah, peut-être, mais enfin, bon, nous, on n'a pas été au pouvoir, c'est toute la différence. Mais je note simplement que derrière tout ça, qu'est-ce que c'est la fin de l'histoire? La fin de l'histoire, qu'est-ce que c'est? La fin de l'histoire, c'est la baisse des indemnités chômage. La réforme de cette assurance chômage amènera les Françaises et les Français à voir leurs indemnités chômage baissées. C'est ça de la fin de l'histoire qui est en train de s'écrire.
Laetitia Avia, alors que dites-vous face à ces critiques?
Je pense qu'il y a énormément de confusion et d'instrumentalisation politique ici, purement politicienne dans ce discours. On est dans une transformation de notre modèle social. Il est acquis que d'ici maximum une vingtaine d'années, un travailleur sur deux sera un indépendant. Il faut donner la même protection sociale à ces personnes. Et oui, c'est pour ça que l'on est dans une ouverture des droits. Mais plus on ouvre nos droits, plus il faut aussi les encadrer. Justement, plus il faut les encadrer. Et plus il faut les encadrer, plus il faut aussi aller vérifier que toute personne qui va bénéficier de ce nouveau système que nous mettons en place n'abusera pas de ce système. Et c'est pour ça que ce contrôle est nécessaire. Ce contrôle était en effet dans le programme d'Emmanuel Macron que nous avons défendu durant la présidentielle. C'est un élément important de la transformation du modèle social avec les ordonnances travail, avec la réforme de la formation professionnelle, et tout cela participe ensemble à notre lutte contre le chômage.
J'ai une question à poser à Laetitia Via. Qu'est-ce que c'est qu'une offre raisonnable ? On dit on va sanctionner les chômeurs qui n'accepteraient pas une offre raisonnable. C'est celle que le président Macron indiquait comme étant la possibilité d'aller bosser à 2 heures de chez soi aux employés ou aux gens qui cherchaient du boulot en Corée, c'est ça ?
Je pense qu'il s'agit du genre de questions auxquelles nous aurons à répondre durant le débat parlementaire que nous mènerons justement.
Dans le flou, en fait.
Je suis en train de vous dire que nous avons un travail à faire. Vous êtes député, je le suis également, et nous allons avoir justement un travail
à
faire.
C'est trop facile.
Ce n'est pas la facilité que de faire notre travail. Je vous dis qu'on va devoir définir ensemble, puisque vous êtes également un élu de la nation, les conditions d'application de ces dispositifs.
Stéphane Le Foll, sur ce sujet, cette courbe du chômage qui s'est jamais inversée lors du précédent quinquennat, d'ailleurs.
À la fin. Juste à la fin. Bon, bref, on va pas revenir. Non. Aujourd'hui, il y a des créations d'emplois, et c'est tant mieux. Tant mieux. Et on voit bien que la création d'emplois est liée au retour de la croissance et à l'investissement d'abord. Deuxième point, l'hypothèse qui consiste à dire, parce qu'il y aura 50% des emplois qui seront des emplois indépendants d'ici combien de temps ?
D'ici une vingtaine d'années.
Alors là, je veux vous rassurer tout de suite. Si c'est ça l'hypothèse qui fait que vous changez tout, je considère.
C'est une prise en considération de notre société et de l'évolution de la société aujourd'hui.
C'est autre chose.
Il est important de pouvoir protéger tous les travailleurs, quelle que soit leur catégorie.
Une évolution, bien sûr, mais de dire que parce qu'il va y en avoir 50% d'ici à peine 20 ans, on change tout. C'est pas vrai. Et deuxièmement, si c'est pour changer ce que vous dites, et la première des mesures qui va s'appliquer d'ici les 20 ans qui viennent, ça sera des sanctions supplémentaires pour ceux qui cherchent du travail et qui n'en ont pas, eh bien écoutez, franchement, c'est quand même une manière un peu bizarre de présenter les choses. Ça ne peut pas marcher comme ça.
Ce n'est pas la première mesure, il y a toute une panoplie de mesures que vous avez également votées dans le cadre des travaux parlementaires. Il y a une augmentation des protections aujourd'hui. Notre système social correspond uniquement aux personnes qui sont en situation de CDI.
Le gouvernement des usines à gaz. Pour précariser, on y va à fond. On l'a vu encore avec les ordonnances. Hein. Bon, ça marche bien.
L'uniformisation des statuts est une usine à gaz.
On invente, ce gouvernement propose des usines à gaz inapplicables, surtout pour les PME, les TPE d'ailleurs, qui font que les salariés se retrouveront absolument pas protégés.
L'assurance chômage pour tous, ce n'est pas une usine à gaz. Au contraire, c'est l'uniformisation des protections de notre État.
Allez, 21h40 sur France Info. Le retour de l'info avec vous, Diane Ferschit.
Le groupe Lactalis assure travailler en parfaite collaboration avec l'État depuis le début de l'affaire du lait contaminé à la salmonelle. Le porte-parole de l'entreprise l'a souligné ce soir alors que le ministre de l'économie affirme avoir dû se substituer à une entreprise défaillante. Le géant laitier a également renouvelé ses excuses aux parents qui ont acheté du lait susceptible d'être contaminé. Convoqué par Bruno Le Maire, le PDG de Lactalis se rendra demain à Bercy. Par ailleurs, plusieurs familles vont porter plainte contre des magasins de grande distribution. Ces magasins qui ont reconnu avoir vendu des produits Lactalis pourtant rappelés. Le système ne fonctionne pas, il a besoin d'être changé. Déclaration de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, à l'issue de sa rencontre avec les associations d'aide aux migrants. 3 heures de réunion sur le projet de loi immigration du gouvernement. Les associations en sont sorties déçues, soulignant la dureté du texte proposé. Dans le Pas-de-Calais, un détenu particulièrement surveillé s'en est pris aujourd'hui à 4 surveillants armés d'un objet tranchant. Il en a blessé 3 légèrement. L'homme est incarcéré pour des faits de terrorisme mis en cause dans l'attentat de Djerba en Tunisie. C'était en 2002. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'affaire. La Ligue de football professionnelle suspend à titre conservatoire la technologie sur la ligne de but. Le dispositif censé prévenir directement l'arbitre en cas de but s'est montré défaillant hier, notamment sur la rencontre Amiens-PSG. Cette suspension concerne la Ligue 1 et la Coupe de la Ligue.
France Info.
21h-22h, tout est politique, Jean-François Aquili.
Un autre sujet à présent et qui divise au sein même de la majorité, le gouvernement est-il trop dur en matière d'immigration ? Édouard Philippe recevait aujourd'hui les associations, voilà, j'y arrive, d'aide aux migrants pour tenter de déminer les conflits. Pendant ce temps, Emmanuel Macron s'exprimait sur ce sujet de l'immigration en Italie.
L'humanité sans efficacité, ce sont des belles paroles. L'efficacité sans l'humanité, c'est de l'injustice. Il faut se garder des faux bons sentiments. Il faut se garder de toute brutalité. Et il faut avoir cette exigence chevillée au corps.
Stéphane Folle, je commence par vous, mais au hasard, en fait, il faut avoir...
Au hasard.
Oui. Quelle approche il faut avoir de ce dossier? Les faux bons sentiments d'Emmanuel Macron? Vous le trouvez trop sévère là-dessus aussi, également?
Moi, je trouve que ce qui s'est passé depuis un mois avec la circulaire de Gérard Collomb, là, sur la possibilité d'envoyer des fonctionnaires dans les centres d'hébergement, correspond à une espèce de basculement dans un durcissement. C'est très clair. Mais ce durcissement, en plus, il va avoir des conséquences. Si vous dites que ceux qui sont en situation d'être traités par l'OFPRA pour le droit d'asile et qui sont dans des centres d'hébergement, mais que vous commencez par leur dire, dès que vous allez être dans un centre d'hébergement, il y a des fonctionnaires qui vont venir pour vérifier si vous allez pouvoir rester ou pas, qu'est-ce qui va se passer? On risque d'avoir des gens qui vont partir de ces gens des centres d'hébergement et qui vont rester dehors. Donc, en termes d'humanité, on a une espèce de contrôle a priori, et en termes d'efficacité, on remet des gens dans la rue. C'est parfaitement ni juste, ni humain, et ni efficace. Donc si je reprends les termes du président de la République, là, il y a une anomalie entre le discours et la mise en œuvre. Et deuxième point, si on veut accélérer les procédures de droit d'asile pour pouvoir renvoyer ceux qui n'ont pas vocation à rester, mais donner à ceux qui ont vocation à acquérir le droit d'asile, eh bien, il faut aussi mettre des moyens là où il faut. Je rappelle que sous le gouvernement du candidat François Hollande, on est passé de 20 000 cadres à 40 000.
Je vais répondre d'abord sur le second point, puisque les moyens sont là. Dans le budget que nous avons voté, il y a une augmentation aussi bien du budget d'intégration que du budget d'immigration lié à l'immigration des places en centre d'hébergement, puisqu'on a 9 000.
Vous dites qu'il n'y avait pas assez de moyens auparavant.
Voilà. Mais il n'y avait pas assez de moyens. On est dans une situation qui n'était absolument pas qui ne pouvait être maintenue et qui est indigne de notre pays. Ensuite, il y a un point sur lequel je veux revenir puisque j'entends beaucoup de choses sur la circulaire de cet automne. Quel est le but de cette circulaire? C'est de répondre à notre priorité. Et notre priorité, c'est en effet de mieux accompagner les demandeurs d'asile. Et pour cela, il faut aussi les identifier. Il y a aujourd'hui des demandeurs d'asile qui sont dans des centres d'hébergement d'urgence où ils n'ont pas vocation à être. Il y a d'autres solutions qui sont là, qui sont à leur disposition et vers lesquels il faut les orienter, et c'est ça le but ultime de cette circulaire.
Si vous le permettez, on va vous entendre là-dessus, Sébastien Chenu, à la sortie de ce que je vais vous faire entendre. C'est ce qu'a déclaré tout à l'heure Jacques Toubon, le défenseur des droits. Vous l'aviez invité à votre micro, Gilles Bornstein, dans l'instant politique sur France Info. Écoutez de ce qu'il dit de cette circulaire qu'il juge à peu près illégale.
Le problème de droit, c'est qu'il existe un article dans une loi et un principe constitutionnel qui dit que pour toute personne qui est en détresse, de toute nature, elle doit inconditionnellement être mise à l'abri, donc bénéficier d'un hébergement d'urgence. À partir du moment où on s'engage,
contrevient-elle à ce principe?
À partir du moment où on s'engage vers une sélection, en quelque sorte, des personnes qui sont dans l'hébergement d'urgence, on risque de mettre en cause ce principe fondamental d'inconditionnalité.
Elle est illégale.
De ce point de vue, c'est-à-dire par rapport à cet article de la loi, elle est illégale, mais je dois dire, je ne suis pas le Conseil d'État.
Gilles Bornstein, c'était clair. Hein.
Vous êtes avocate. Mm-hmm. Jacques Toubon vous dit, cette procédure est illégale. Pourquoi soutenez-vous une procédure illégale?
Je ne partage pas son point de vue pour une raison
c'est
tout à fait.
C'est binaire le droit, soit non, c'est légal, non, soit c'est pas légal.
Mais
ça
alors justement, et le droit va être prononcé sur cette circulaire puisque des associations ont justement saisi la justice. La question est la suivante. Est-ce qu'on remet en cause le principe d'inconditionnalité de l'accueil? Non. Est-ce que des demandeurs d'asile qui sont dans ces centres, est-ce que des demandeurs d'asile qui sont dans ces centres seront obligés de quitter ces centres? Absolument pas. Non. Ce qui se passe concrètement, vraiment, il faut dire ce qui se passe.
On est sûr de ça.
Oui. Alors première chose, si vous me permettez d'aller jusqu'au bout, c'est que les agents de la préfecture ne sont pas des agents de police, n'ont aucun pouvoir de contrainte, n'ont aucun pouvoir de contrôle d'identité. Ils seront dans ces centres à disposition des demandeurs d'asile pour pouvoir mieux les orienter vers des logements qui peuvent être des chambres d'hôtel, qui peuvent être ces centres destinés aux demandeurs d'asile. Et c'est ça le but, c'est d'aller rechercher ceux à qui on peut proposer une situation mieux adaptée à leur statut, qui est le statut demandé de réfugié.
Sébastien Chenu du Front National, d'abord sur cette circulaire, vous la validez ou pas?
Non, mais on n'y croit pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est beau le théâtre, mais enfin, ça ne nous fait pas tellement rire. Ce qu'on est en train de voir là, les associations un peu chouchous du système ont été reçues. Bon, le gouvernement enclenche un recul. La vérité, c'est qu'il enclenche un recul parce que, dans sa majorité, ça grince. Donc, on reçoit les associations. Et au bout du compte, que va-t-il se passer? Laetitia Avia l'a très bien dit. On accueille de façon inconditionnelle. Donc, par conséquent, tout le monde entre, personne ne sort. Les déboutés du droit d'asile ne repartent pas. Tout le monde entre, personne ne sort. Et ça continuera. Et finalement, vous aurez le résultat qui était celui des années Hollande et des années Sarkozy, c'est-à-dire un laxisme total, une situation pas gérée. Pourquoi? Parce que le gouvernement est un canard sans tête. Il n'y a pas de ligne directrice. On ne peut pas vouloir accueillir et vouloir réformer, par exemple, le droit d'asile pour avoir moins d'immigrés économiques
on
chez soi.
On ne réforme pas le droit d'asile, en effet.
Non, mais c'est bien ce qu'on vous reproche, d'ailleurs.
Non,
oui, vous
ne
le reprochez pas, c'est bien ce qu'on vous reproche.
Attendez, pas tous en même temps. Stéphane,
le droit d'asile?
Si, le droit d'asile, mais pas celui-ci.
Pas celui-ci, donc c'est quoi? C'est un droit spécifique.
Parce qu'il est bien, il faut le réformer. Aujourd'hui, le droit d'asile...
C'est quoi? Mais c'est quoi?
Permettez. Aujourd'hui, le droit d'asile est trop large, trop flou, et fait en sorte que des immigrés économiques le détournent pour pouvoir s'installer. Non. Il faut réformer en profondeur ce droit d'asile. Non. D'ailleurs, il a évolué dans notre histoire. Il a évolué dans notre histoire, ce droit d'asile. Il faut le réformer parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, tout le monde entre, personne ne sort et merci, mais on est complet.
Non,
c'est
il y a
c'est
des gens qui sont renvoyés dans leur pays.
Mais oui, non, mais moi je pense qu'il faut arrêter. Il y a un détournement du droit d'asile. 96% des déboutés demeurent sur notre sol sans droit ni titre.
Je connais la position du Front National.
De toute façon, on va pas chercher. 67% des Français disent qu'il y a trop d'immigrés en France, monsieur.
Mais ça fait, vous savez, ça fait 20 ans que le Front National répète ça.
Que les Français le répètent.
Il y a un problème aujourd'hui global. Global, vous voulez pas le regarder. Ou vous dites que de toute façon on ferme, et c'est ce que vous dites, toutes les frontières.
Pas seulement d'ailleurs.
Mais pas seulement, mais c'est ça votre discours depuis des années. Ou on essaye de faire face d'abord pays par pays et à l'échelle européenne à cette vague migratoire qui est liée à quoi? À des guerres qui existent dans un certain nombre de pays.
Monsieur, vous avez été en échec total sur la question. Venez pas nous faire la leçon aujourd'hui.
Nous, ce que nous, je vous dis, la réalité,
on ne peut pas la regarder. On pense
qu'il
faut développer l'aide, il faut accélérer l'aide au développement. Elle est en recul dans le budget Macron, l'aide au développement.
Donc c'est un problème qu'il faut traiter comme cela. Deuxième point.
Là, merci des leçons, hein, ça n'a pas été brillant.
Mais ça n'a pas été brillant parce que vous pensez que la situation...
Vous êtes en échec total, monsieur.
Sébastien, je vais laisser finir. On gère un gros problème.
Ne venez pas donner
des leçons,
voyons.
Et donc, on essaie de faire en sorte d'être humain, de respecter le droit et les engagements de la France, et en même temps, quand c'est nécessaire, de renvoyer ceux qui n'ont pas vocation à
arrêter. Vous avez raté sur toute la ligne.
Vous pouvez arrêter de couper les gens. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est que sur la question du droit d'hébergement, vous pouvez tourner ça dans tous les sens, et ce qu'a dit Jacques Toubon est parfaitement juste. Si vous envoyez des fonctionnaires pour anticiper ceux qui peuvent rester ou ceux qui pourront avoir le droit d'asile, vous allez conduire des gens qui sont dans les centres d'hébergement à ne pas y aller et à rester où? Dans la rue.
Ces
et ça reviendra à être
aucun
contradictoire avec
le gouvernement. Ces agents n'ont aucun pouvoir de contrainte.
Quel échec. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez
pas,
s'il vous plaît.
Ça ne peut pas marcher.
On va poursuivre sur ce thème dans quelques secondes.
Que des flics vont venir, ils partiront.
Voilà. Mais non, alors ce ne sont pas des flics, et je n'arrête pas de le dire, ce sont des agents de la préfecture, ce sont ceux qui travaillent déjà aujourd'hui avec
Laetitia
les demandeurs d'asile.
On n'y comprend rien,
ce ne sont
tout
pas
monde
des
entre,
flics, pas de fausses informations
Laetitia
tout de même.
On va poursuivre dans un instant sur ce thème à 21h50 après l'info avec vous, Diane Ferschit.
L'affaire Lactalis et des familles vont porter plainte contre les magasins de grande distribution qui ont vendu du lait infantile. Pourtant, rappelé, reçu par Bruno Le Maire ce soir, les représentants des grandes surfaces ont promis un contrôle systématique en caisse des boîtes de lait infantile Lactalis. La direction du groupe, elle, s'est exprimée ce soir. Le porte-parole de Lactalis est revenu sur la chronologie des différents rappels des produits. « Nous ne nous excuserons jamais assez », a-t-il affirmé, ajoutant avoir travaillé en parfaite collaboration avec les autorités. La direction de Lactalis sera reçue demain par Bercy, le gouvernement réclame des explications. Limiter les recours aux contrats courts, renforcer le contrôle des chômeurs ou encore intégrer les indépendants et les démissionnaires. Début des discussions aujourd'hui sur la réforme de l'assurance chômage. À l'issue de cette première journée, les partenaires sociaux ont fait part de leur vigilance sur plusieurs points de cette réforme. Syndicats et patronats se rencontreront 12 fois au total jusqu'au 16 février. 8 jeunes de 15 à 19 ans mis en examen pour actes de torture et de barbarie au Havre. 4 d'entre eux ont été placés en détention provisoire. Ils sont suspectés d'avoir séquestré et torturé
torturé pendant plusieurs semaines un jeune handicapé mental âgé de 19 ans à Bolbec, en Seine-Maritime. Un enchaînement de violences considérable, selon le procureur de la République du Havre. Les gardes à vue des trois suspects du braquage du Ritz prolongé ce soir. L'ensemble des bijoux dérobés a été retrouvé dans le sac récupéré sur place hier par les enquêteurs. Les malfaiteurs s'en sont pris à une bijouterie du Palace parisien. Deux hommes sont toujours en fuite. Leur véhicule incendié a été retrouvé aujourd'hui dans le Val d'Oise.
France Info.
21h-22h, tout est politique. Jean-François Aquili.
Nous allons nous séparer sur un sondage, mais avant cela, je voudrais, Gilles Bornstein, que vous fassiez réagir nos invités sur une qui a surpris. Hein.
Oui, la une de l'Observateur qu'on a vue hier, d'Emmanuel Macron, un portrait d'Emmanuel Macron entouré de barbelés. Stéphane Le Foll, vous avez dit être contre la politique d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous pensez de cette une?
Est-ce
que vous
la trouvez raisonnable, droits de l'homme, etc.
Exagéré.
Oui, je suis contre la politique qui est conduite et qui a été présentée. C'est pas pour autant. Bon, Emmanuel Macron a eu beaucoup de une, hein, qui était extrêmement favorable. Mais là, je trouve que c'est un peu exagéré de mettre en scène comme ça avec des barbelés. Bienvenue au pays des droits de l'homme, c'est ça.
Oui, bienvenue
bon,
au pays
voilà,
des droits de l'homme.
Après, le sujet de la une ne changera pas la position qui est la mienne sur ce qui est dit ou ce que veut faire le gouvernement aujourd'hui.
Ça vous étonne de la part de l'Obs?
Écoutez, aujourd'hui, je constate qu'il faut chercher l'accroche.
Un mot là-dessus, Sébastien Chenu, cette une?
Oui, je crois que cette une, c'est une fake news. Emmanuel Macron continuera à accueillir plus d'immigrés dans notre pays, donc c'est une fake news.
Et vous, Laetitia Avia?
Écoutez, c'est une un peu outrancière, mais moi, je ne commente pas les choix éditoriaux.
Alors, transition toute trouvée, puisque nous allons nous séparer avec ce sondage Odoxa Dentsu Consulting pour France Info Le Figaro sur ce projet de loi, cette idée de projet de loi lancée par Emmanuel Macron contre les fake news, justement. Enquête réalisée en ligne hier auprès d'un millier de personnes et aujourd'hui. Alors, le résultat, c'est 71% des personnes interrogées par Odoxa estiment que les fake news représentent un problème important en France. Et 8 Français sur 10, eh bien, jugent que la loi contre les fake news est une bonne initiative. Votre avis sur cette question? Je fais un petit tour de table final. D'abord vous, Stéphane Le Foll.
Je comprends que quand on dit fake news, les gens se disent oui, il faut lutter contre les fake news, mais je voudrais savoir exactement de quoi on parle. Parce que là, fake news, alors, bon, très bien.
On parle d'informations qui sont fausses et qui sont relayées souvent par des organismes payés pour cela, souvent par des puissances.
Justement, un juge aura le pouvoir de juger si un news est vrai ou faux.
Alors dans l'état, si vous me permettez d'aller jusqu'au bout de mon propos peut-être, dans ce que le président de la République a évoqué pour l'instant, puisqu'il n'y a encore aucun texte, hein, bien sûr. L'idée aujourd'hui, c'est de mieux contrôler et de donner plus de transparence sur les informations qui sont les contenus sponsorisés que l'on diffuse sur les réseaux sociaux durant les périodes présidentielles. Voilà. Et donc ce n'est pas un contrôle de l'information et dire quelle information est vraie ou fausse, mais c'est donner les moyens à toute personne qui est en face de l'information de savoir d'où vient cette information, puisque souvent ces contenus sponsorisés émanent de personnes anonymes, voire de l'étranger.
Oui, une question par exemple, la loi travail créera de l'emploi. C'est une fake news. Ce clin d'œil, c'est qu'effectivement c'est inapplicable parce que la définition de ce que c'est une fake news c'est très difficile. Le président de la République avait indiqué que ce serait pendant les périodes électorales, mais je rappelle que la loi existe déjà. La propagation de fausses nouvelles pendant les périodes électorales existe déjà et doit pouvoir être appliquée. Nous avons fait par exemple condamner l'AFP pour des fake news. On a utilisé la loi. L'AFP avait fait des fake news.
Je comprends parfaitement la réaction du Front National, puisqu'en effet,
On a fait condamner, on a été victime. Mais je vois d'où vient la logique. Aujourd'hui, on a vu que la commissaire européenne au numérique, Mme Gabrielle, indiquait qu'il fallait lutter contre les fake news. Donc, encore une fois, M. Macron est le bon élève de l'Union européenne. Il vient appliquer une directive, un ordre venu de Bruxelles.
J'ai bien vu le résultat de votre sondage. Je sais que les Français, de manière générale, se préoccupent de cette situation et de cette cette désinformation qui nuit à notre démocratie. Je comprends parfaitement la position du Front National qui était d'ailleurs les premiers à s'exprimer sur ces sujets et qui sont bien sûr contre la sanction de comportements qui sont les premiers à relayer. On a bien vu durant aussi bien... Je suis en train de vous dire que les extrêmes se nourrissent de ces de cette fausse information et que on l'a bien vu, on le sait, l'enquête qui a été menée également à l'issue des élections américaines ont permis de révéler que ces contenus sponsorisés, et c'est bien ça le problème, c'est les contenus sponsorisés ont une influence extrêmement forte sur les personnes qui ont accès à ces informations. L'élément le plus important, c'est de donner les clés de lecture, et c'est ça la transparence. Ce n'est pas juste de dire cette information est vraie ou fausse, mais c'est de savoir d'où proviennent les informations.
Vous dites
bah oui, c'est
de
savoir
que vous êtes en train de verrouiller l'expression dans le pays.
On est en train de dire qu'il faut diffuser la source de l'information.
De clarification, parce que franchement, on part de fake news, c'est-à-dire de nouvelles qui seraient ou d'informations qui seraient fausses, et on finit avec. Donc, quand même, sur ce sujet, ça mérite la peau.
Un travail parlementaire.
Et nous vous réinviterons à ce sujet.
Ne verrouillez pas la parole des Français.
Et nous vous réinviterons à ce sujet. C'est un vaste sujet qui mériterait même une heure d'émission. Merci à vous, Stéphane Le Foll, d'avoir été parmi nous ce soir. Merci à Laetitia Avia. Merci à Sébastien Chenu. Et merci à mon complice Gilles Bornstein. À demain soir pour une nouvelle édition de Tout est politique sur France Info.